France Culture. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Un club de football est-il une entreprise ? A-t-il pour fonction de générer du profit, d'être une affaire rentable ? Face à l'état du football contemporain, on ne peut que répondre à ces deux questions par l'affirmative. Les grands clubs, en particulier, sont devenus de véritables multinationales, dans des batailles de communication et de popularité pour pouvoir vendre leurs droits télévisuels et décrocher des sponsors toujours plus lucratifs. On ne parle pas seulement de la réussite sportive des clubs, mais aussi de leur réussite financière. Il y a même des clubs où la politique sportive n'est guidée que par des intérêts commerciaux. On peut penser en France à des équipes comme Lille et Monaco, qui, malgré une certaine ambition sportive, sont surtout l'application d'un modèle financier profitable. Acheter de jeunes talents en post-formation à des prix raisonnables et les revendre quelques années plus tard, pour 2, 5, voire 10 fois ce prix. Il y a même des clubs qui tentent des paris financiers, spéculatifs, comme des espèces de montages boursiers dont l'échec mettrait en péril l'institution entière. Le FC Barcelone, par exemple, à l'été 2022, s'est donné les moyens d'investir lourdement dans le marché des transferts en bradant ses droits à l'image pour les 25 prochaines années à des sociétés privées. Autant d'opérations qui se déroulent bien loin du terrain et du jeu, qui, semblerait-il, est progressivement ensevelie sous des préoccupations extrasportives. Mais cette financiarisation du football ne fut pas toujours une évidence. Dans la France des années 80, par exemple, l'arrivée de Jean-Luc Lagardère au Racing Club de France, qu'il rebaptise Matra Racing, provoque une véritable onde de choc. Son investissement lourd, notamment sur le marché des transferts, et ses discours prônant une gestion entrepreneuriale d'un club divisent les dirigeants et les supporters. Là où certains y voient l'avenir du football professionnel comme une évolution logique et nécessaire, d'autres craignent la perte de l'essence même du jeu, disparaissant derrière des impératifs de rentabilité. Ce numéro des Nuits Magnétiques de Arnaud Laporte et Marc Gore, diffusé pour la première fois le 8 septembre 1988, se situe justement à l'intersection parfaite de cette transformation du football français. Les figures de Lagardère et Bernard Tapie y font débat, ainsi que leur méthode de gestion pour le moins controversée. On y entend des supporters tantôt enthousiastes, tantôt inquiets pour leur sport adoré, ou encore des présidents s'étonnant de la naïveté des stratégies financières de ces deux entrepreneurs, investissant dans le football pour générer du profit et, comme ils diraient, diversifier leur portfolio. Mais où est donc passé le ballon ? Foot business, où le football français et mondial a un point de bascule, c'est tout de suite dans les Nuits de France Culture.
Au début du siècle, le sport était un élément moralisateur. Il s'agissait de la morale du fair play. Dans un entretien publié en 1912, Henri Bergson disait à son interlocuteur du Gaulois littéraire « Ce que j'estime surtout dans les sports, c'est la confiance en soi qu'ils procurent. Je crois en une renaissance morale française. » Quand en 1906 les footballeurs commencent à être payés, cela fait scandale. Le président des sociétés françaises de sport athlétique est outré. Je cite « L'effort, devenu l'essentielle préoccupation de l'individu, rabaisse l'idéal au lieu de l'élever. Le spectacle devient séduction et non plus édification. Aujourd'hui, la spécificité morale du sport a été remplacée par la spécificité méritocratique. Les valeurs de réussite, d'ambition, d'héroïsme, de défi, d'esprit d'équipe et d'individualisme sont véhiculées par un discours imbibé de jargon sportif. La crise que traverse notre société est ainsi partiellement gommée dans le discours ambiant destiné à faire croire que l'on peut devenir un gagneur. C'est la couleur invisible du monde. Ce discours est accompagné par un autre, qui consiste à nier des évidences. En voici un exemple. L'année dernière, Enzo Francescoli, attaquant du Matra Racing de Paris, a dit partout dans la presse qu'il voulait quitter le club. Quand nous avons interrogé Jean-Louis Piette, directeur délégué du Matra, il nous a dit qu'il n'y avait pas d'affaire Francescoli. Nuit magnétique, mais où est donc passé le ballon ? Ce soir, troisième émission, Foot Business. Arnaud Laporte, Christine Robert, Marc Corr, bonsoir.
Ce n'est pas parce qu'on aime le football qu'on a choisi le football.
Jean-Louis Piette, directeur délégué du Matra Racing de Paris, nous reçoit dans ses bureaux de l'avenue Hoche. Costume impeccable, sourire médiatique et discours en boucle.
Il y a les hommes qui font le produit. En l'occurrence, le produit n'est pas l'équipe, mais c'est les résultats qu'elle obtient et la manière. Donc le spectacle qu'elle délivre. En quelque sorte, ça se rapproche plus d'une activité de théâtre, de spectacle, que d'une activité industrielle. Mais en tout état de cause, il y a un produit qu'on doit vendre. Et de cette partie-là, il n'y a pas de différence essentielle. Il y a des règles économiques qui tiennent promouvoir le produit, le vendre d'abord au prix adapté à cette campagne de promotion, puis ensuite, si les résultats viennent, adapter ce prix pour optimiser les recettes et pouvoir investir dans l'avenir. Ça, ce sont des mécanismes très traditionnels. Simplement, il faut adapter le type de promotion au type de public, au type d'acheteur que nous avons. Il reste la partie production. La partie production, d'abord, il faut qu'elle ait, elle aussi, des règles économiques qui soient celles du monde économique. On ne peut pas avoir des salariés, fussent-ils payés extrêmement bien, sans obéir à des règles dans leur gestion. Et donc, de ce fait-là, notre expérience d'industriel, à notre avis, est un plus. Maintenant, il y a des hommes à gérer, comme il y a des acteurs. Ce sont donc des gens qui ont du talent, et que ce talent, c'est pas programmable. Tout au moins, ça ne l'est pas autant qu'un simple savoir-faire. De ce fait, il y a des choses plus complexes qui tiennent à l'entourage des joueurs, à la préparation psychologique, humaine, et puis ensuite arriver à trouver des chefs d'orchestre qui fassent jouer ces gens ensemble, qui leur fassent produire un spectacle de qualité tout en étant efficace. Parce que il reste que ce spectacle est dans le cadre d'une compétition sportive, avec ses règles, et que même si vous faites un très beau spectacle, si vous êtes éliminé au premier tour, ça n'a pas d'intérêt. Il y a donc une sorte, non pas de rapport qualité-prix, là, mais un rapport qualité-efficacité. Avant, bien que le professionnalisme ait été inventé en 1931 en France, je dirais que jusqu'à maintenant, il n'y a pas 98% des dirigeants qui le savent et qui se conduisent en tant que responsables d'entreprises de professionnels. Donc, de ce fait, les réflexes sont plutôt des réflexes d'amateurs. On joue le dimanche, on joue le samedi soir, mais on joue toutes les semaines et le but, c'est de jouer. Alors qu'il y a un problème principal, remplir les stades, puis remplir les caisses, et non pas l'inverse, qui chasse les gens des stades. Donc, remplir les stades, remplir les caisses, plaire, et en même temps exister, donc ne pas être éliminé. Ces mécanismes, ils doivent s'analyser de façon rationnelle. S'il y a des solutions, il faut les mettre en évidence, parce que s'il n'y a pas de solution, investir avec des risques gigantesques n'a pas de sens. Mais malgré tout, il subsiste un risque. Nous n'avons pas encore véritablement apprécié si l'investissement a un return, comme disent les Américains, suffisant. S'il a un intérêt, qu'il soit financier ou d'image, ce qui est la même chose pour un industriel, s'il a un intérêt suffisant. Nous le croyons, mais il y a toujours un risque. Pour l'instant, nous essayons de le diminuer et de l'apprécier. On verra ensuite.
J'ai un peu peur qu'il tue... Le foot au départ, quoi, qui tue le côté enthousiasme, jeu. et qui amènent trop de rigueur et qui tuent la spontanéité de... C'est sûr qu'une entreprise ne peut avoir qu'un esprit d'entreprise dans tout ce qu'elle fait. Alors, ils essayent de plier un club de foot à un esprit d'entreprise. Alors, ils le plient sur leurs joueurs, sur leurs dirigeants, sur leur réaction vis-à-vis des journalistes aussi.
Jean-Paul Oudot, journaliste à L'Équipe.
Ben, les rapports, je dirais que nous avons quelques incidents avec le Matra qui se targue souvent dans ses publicités d'être le roi de la communication. Mais enfin, je ne sais pas de quelle communication il s'agit, en tous les cas avec nous. Et si la formule adoptée par le Matra restait la même, il est certain qu'au niveau de l'union syndicale, il y aurait probablement une réaction assez virulente. Maintenant, on nous soutient que le Matra doit faire comme tous les grands clubs européens. Mais premièrement, je fais remarquer que le Matra n'est pas encore un club européen. Et deuxièmement, que nous sommes en France. En France, nous avons une certaine liberté, nous avons le droit de l'information. Et actuellement, cette liberté, ce droit de l'information sont plus ou moins bridés.
Pour moi, le sport est une nécessité pour le corps, pour la santé.
Georges Marchais.
C'est la première chose. Deuxième chose, le sport suppose l'effort, l'esprit de compétition, la combativité, la lutte. C'est la seconde raison. Et la troisième, le sport, c'est aussi, et ce n'est pas contradictoire, c'est la fraternité. Évidemment, elle est plus visible si on parle football, handball, basketball, rugby, etc. Mais en règle générale, le sport est un lieu de fraternité entre les hommes. Voilà les trois raisons qui font que je m'intéresse à tous les sports.
Alors, sur les trois raisons, c'est assez étonnant parce que vous avez les capitaines d'industrie qui ont investi le football, Bernard Tapie, Jean-Luc Lagardère et autres, qui ont exactement les mêmes raisons de s'intéresser au sport. Et eux, ils disent que c'est... le football ou le sport, c'est comme une entreprise. Et c'est pour ça qu'ils sont dans le football.
Ah oui, mais moi, je ne... non, nous ne... mon raisonnement... fondamentalement, mon raisonnement ne rejoint pas le leur. Encore est-il que, entre les sponsors, vous avez évoqué Tapie et Lagardère, je n'irai pas dans le détail, mais je fais une différence entre les hommes. Hein? Parce que il y en a qui aiment le football... Si je prends les deux que vous avez cités, je sais qu'il y en a un qui aime le football. Par contre, il y en a un autre, je sais que pour lui, le football est complètement indifférent. C'est véritablement l'entreprise. Hein? Alors, cela dit, il y a alors le sponsoring, le fameux sponsoring. Alors, je pense que là, ça pose beaucoup de problèmes. D'abord, je supporte mal ce comportement de gens qui disent, sont là, le club doit fonctionner comme l'entreprise. Si le club doit fonctionner comme l'entreprise, c'est-à-dire que les joueurs appartenant à ce club doivent être exploités comme le sont les travailleurs dans les entreprises, et pour le profit, c'est-à-dire pour enrichir. Non, à mon avis, je ne vois pas, moi, le club professionnel... fonctionner de cette façon-là. J'ajoute que je vois un danger à cela. Parce que naturellement, cette question, je ne vais pas dans le détail, mais je crois qu'on se comprend, ce sponsoring tel qu'il se développe maintenant conduit à un déséquilibre fantastique entre les équipes. Enfin, réfléchissons. Quels sont les clubs les plus riches de France actuellement ? Ce n'est pas difficile. Matra Racing, Bordeaux, la municipalité de Chaban-Delmas joue incontestablement un très grand rôle. Monaco, je pense que le prince Rainier s'intéresse au football, là-bas, c'est visible. Voilà trois clubs. Ensuite, vous avez le Paris Saint-Germain, la municipalité de Paris apporte sans aucun doute une aide assez importante. Vous avez Sochaux, encore est-il que Peugeot, qui est un patron, Ce n'est plus Sochaux d'il y a quelques années. Hein. Il semble que maintenant, la direction de Peugeot exige une rentabilité élevée. Bien. Mais voilà. C'est ça, les clubs. Bon. Et ensuite, vous avez des clubs qui ne sont pas sans moyens. On peut prendre Nantes, on peut prendre Auxerre, on peut prendre d'autres clubs, c'est pas, qui ne sont pas sans moyens. Mais il y a quand même un déséquilibre, qu'on le veuille ou non. Et ce déséquilibre, vous le trouvez dans le recrutement des joueurs, et vous le trouvez dans, naturellement, les salaires perçus par les joueurs. Il y a une grande inégalité, c'est incontestable. Donc, je pense que le sponsoring tel qu'il est conçu aujourd'hui, ce ne sont pas des gens... mis à part, vous avez évoqué un nom tout à l'heure, j'ai fait une petite réserve, parce que je vais être honnête. Mais ce ne sont pas des gens qui aiment le sport. Non. Ils interviennent pour autre chose. Alors, pour y gagner de l'argent, si c'est possible, évidemment. Pour une certaine notoriété, oui, c'est incontestable. Moi, le football, y compris professionnel, je ne le conçois pas de cette façon-là.
Former, préparer l'avenir et en même temps encadrer avec des stars, des gens qui apportent quelque chose, à coup sûr, ne serait-ce que leur image. Donc nous avons voulu faire ça, nous voulons faire cela, mélanger à la fois de plus en plus des jeunes formés de chez nous qui apporteront un esprit avec des professionnels issus de régions différentes, de zones différentes, de cultures différentes, mais dont le talent est vérifié.
Quel est l'esprit, vous espérez, qu'ils apporteront ?
C'est l'esprit d'appartenir d'abord à la même entreprise, au même club, au même maillot, aux mêmes couleurs. C'est-à-dire qu'au-delà de la simple valeur monétaire des contrats, qui est nécessaire, personne ne travaille gratuitement, c'est aussi l'attachement à une famille, à un club, à quelque chose, une entité qui vous a apporté quelque chose. Donc je crois que si un footballeur sent que sa formation a été bonne et qu'elle va l'aider dans la vie, il n'aura de cesse que de respecter ceux qui l'ont formé et les structures où il a été formé. Donc ce ciment-là permettra de mieux faire l'accueil des nouveaux qui viennent d'ailleurs, de mieux les comprendre, mais aussi eux, de mieux épouser leur club.
Est-ce qu'il est prévu par la société Matrain un certain nombre d'années, au-delà desquelles, si les résultats ne suivent pas, le Matrain se retirera du club ?
Alors, écoutez, il n'y a rien de strict en matière industrielle. Si vous définissez un programme pour un nouveau produit, vous vous donnez un planning et vous tentez de le respecter. Ne pas le respecter, c'est prendre des risques commerciaux et financiers. Mais la plupart des programmes sortent avec quelques jours, quelques semaines, quelques mois, des fois quelques années de retard, et des fois ne sortent jamais. Ils ne sortent jamais soit parce que techniquement ils n'ont pas pu, soit parce qu'on a décidé à un moment donné d'arrêter de dépenser inutilement, soit parce que les conditions du marché sont modifiées, qu'on s'était trompé. Donc dire « c'est comme ça, ça ne peut pas bouger », c'est stupide.
Le club, c'est une entreprise. Ça doit fonctionner comme une entreprise. Moi, je ne le vois pas comme ça.
On s'est dit simplement que sur une période de 10 ans, commencée maintenant, je dirais, il y a 4 ans, nous réussirons. Maintenant, on peut demain décider, le football français, qui est maître en son sein, peut demain décider que interdiction au club français de participer aux Coupes d'Europe. Inutile de vous dire qu'on arrête. La vocation de Matra n'est pas de rivaliser avec Créteil ou avec Laval. Nous respectons infiniment le travail qu'ils font. Et nous en remercions et nous voyons leurs joueurs. Mais on n'arrivera jamais à mobiliser les Parisiens comme public, ce qui est quand même le premier but, pour recevoir Quimper, Vichy ou je ne sais trop qui. Donc, si on nous interdit ce qui est notre objectif naturel, on ira essayer de trouver par le basket ou ailleurs pouvoir l'atteindre. Deuxième chose, il peut aussi s'avérer que Paris, bon, tout le monde nous le dit, c'est impossible de faire du sport de haut niveau à Paris. Peut-être. Peut-être, eh bien auquel cas, mais là il nous faudra plusieurs années pour en avoir la conviction, alors ça peut être ça qui nous précipite. Inversement, on peut cette année se mettre à tout gagner, et puis au bout de 5 ans, 10 ans, se dire, alors, quand même, là, quel intérêt ça a, on gagne tout, mais plus personne n'en parle, ou je ne sais pas quoi. Beaucoup d'éléments peuvent intervenir. Ce qui est sûr, c'est qu'on a un objectif, l'Europe. Y être, d'une façon ou d'une autre, pour qu'on en parle et pour qu'on soit dans ceux qui la font.
Et c'est soit on peut y arriver, soit on ne peut pas parce qu'on nous en empêche ou que nous ne sommes pas compétents. Il faudra en tirer les conséquences.
Je sais pas, ils ont une couleur qui est superbe, qui est la couleur matra, enfin qui était la couleur racing au départ bleu ciel et qui est devenue matra un peu bleu plus dur. Et ben justement, ils sont passés de ça. Ils sont passés du ciel à quelque chose d'un peu plus froid, un peu plus dur. Mais c'était peut-être pas là leur intérêt.
Frédéric Galamé, journaliste sportive.
Je me dis comme un an, comme de toute façon, il va y arriver un moment où ils vont plus pouvoir faire autant d'argent qu'ils ont fait jusqu'alors. Du fait que ça commence par les télés qui commencent à se désolidariser un peu du foot, qui ne veulent plus retransmettre systématiquement, donc moins de publicité, moins de rentrée d'argent. Il ne faut quand même pas oublier que ce sont des gens qui sont là pour faire de l'argent, d'une manière ou d'une autre. Moi, je ne les juge pas, c'est leur métier, chacun le sien. Moi, je suis là pour écrire des lignes, ils sont là pour faire de l'argent. Je ne pense pas qu'ils vont rester très longtemps dans le football, mais je ne pense pas qu'ils aient une action négative non plus, parce qu'ils ont peut-être suscité des vocations chez certains, des footballeurs qui se sont dit tiens, en négociant au mieux mon argent qui m'est accordé, donc pourquoi ne pas le prendre, ça on peut rien leur dire. Pourquoi ne pas faire comme eux, pourquoi ne pas placer, pourquoi ne pas investir, pourquoi ne pas raisonner après tout sur ce qu'on a gagné et non pas le claquer et devenir propriétaire d'un café à 40 ans, ce qui est peut-être pas non plus la vocation de tout le monde, mais qui était pour beaucoup l'obligation au bout d'un certain nombre d'années. D'un autre côté, on dit souvent que l'argent qu'ils ont amené a pourri un peu le milieu. Je pense que dans la société civile, les ingénieurs et les cadres, ils gagnent autant d'argent, et puis tout le monde le sait, et puis personne ne râle. Ce qui a peut-être choqué, c'est que c'était des gens qui, au départ, n'étaient peut-être pas tous cultivés, n'avaient peut-être pas tous un niveau d'études important, et puis qui se retrouvaient à la tête de dizaines de millions de francs par mois, et qui ne savaient peut-être pas le négocier au mieux, et qui le claquaient de façon trop ouverte, de manière trop voyante, et que ça pouvait choquer des gens qui, je dirais pas économisent par sous, mais enfin font un effort pour venir les voir le samedi soir. C'est peut-être très naïf, mais la majorité des gens n'en a absolument rien à foutre de l'argent. Ils s'en foutent complètement. Ce qu'ils veulent, c'est voir un beau match, et puis ils ont payé leur billet 40 balles à l'entrée. Ils veulent voir un match, ils veulent voir de l'action, ils veulent voir des buts ou pas de buts, si un bon 0-0 ça existe, comme on dit souvent. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent pas savoir si le club a tant de millions de rentrées d'argent à la fin du mois, tel sponsor, machin. Ils s'en foutent complètement. Et ils ont raison. Est-ce qu'on se demande, quand on va voir un film, combien l'acteur est payé? Non. Alors, foot, c'est pareil. Enfin, je crois.
In life for free, but you can give them to the birds and bees. I want money, that's what I want, that's what I want, that's what I want. Your love gives me such a thrill, but your love won't pay my bills. I want money.
Crois dans la règle d'or.
Yann Maxwell.
Ce qui a l'or fait les règles. Et c'est après tout, si c'est Matra qui paie les salaires, si c'est Matra qui fait du mécénat de cette façon, bah très bien, pourquoi pas. Je connais pas suffisamment les fins et les viens la vie quotidienne de ce club, pour en dire plus, si ce n'est que, en tout cas en ce qui nous concerne à Derby, surtout que je connais mieux qu'Oxford, ce qui nous est important, c'est que le club participe dans la vie quotidienne de la ville. Nous avons de support, par exemple, de notre conseil municipal, de la police. Le club doit à la ville quelque chose, mais je terminerai comme j'ai commencé, c'est Matra qui paye le club. C'est à eux de décider comment ils vont le traiter et comment ça va rentrer chez eux. Après tout, ils ont des actionnaires. Il faut qu'ils justifient auprès des actionnaires que c'est un bon investissement au niveau relations publiques, etc. On ne peut pas les critiquer. Mais il y a un autre côté que je viens d'écrire, qui est le côté de relations externes, pas simplement au profit de Matra, mais également au profit de la ville concernée.
Au départ, le club est né en 1933 avec une fusion de l'association sportive stéphanoise et de l'AS Casino. Donc déjà la firme Casino était partie prenante un petit peu dans ce club dès 1933, c'est-à-dire au moment où le club a décidé d'accéder au professionnalisme. Et à partir de là, le Casino a été toujours le partenaire privilégié, en quelque sorte, j'allais dire le premier sponsor dans le football professionnel.
Bernard Puyer, rédacteur en chef de Radio Loire Service.
En fait, la firme Casino a toujours été, j'allais dire, dans les coulisses, dans l'entourage du club, avec un aspect financier intéressant, puisque Casino a toujours donné de l'argent à Saint-Étienne, mais sans apparaître véritablement, dans le giron direct des joueurs et du club. Ce n'est que depuis deux saisons que les dirigeants de Casino ont décidé que les joueurs porteraient le logo Casino sur les maillots.
Et quelle est leur part dans le budget du club ?
Actuellement, la firme Casino offre en quelque sorte 1 milliard de centimes par saison à l'AS Saint-Étienne.
Et le reste ?
Alors, le budget du club peut se définir de la façon suivante, peut s'ordonnancer de la façon suivante. 30% du budget provient des recettes guichets, ce qui est faible finalement, et 70% provient soit de subventions municipales, soit de subventions de collectivités comme le Conseil Général de la Loire, et le reste essentiellement la publicité. Alors à Saint-Étienne, donc, il y a Casino, nous le disions tout à l'heure, avec un effort important de l'ordre d'un milliard de centimes, et puis les dirigeants de la Saint-Étienne ont créé ce qu'on appelle un club de sponsors, au sein duquel une vingtaine de firmes ou d'industriels apportent chaque saison de l'argent au club, en échange de quoi ils ont à leur disposition des loges, et là ils peuvent inviter leurs amis, ils peuvent inviter leurs clients, et faire à travers ces loges des opérations commerciales.
Est-ce que Casino donne de l'argent sans se mêler aux affaires véritables du club, ou est-ce que c'est plutôt tendance Matra, où les joueurs sont intégrés dans une sorte de culture d'entreprise bien précise ?
L'entraîneur et le directeur sportif rendent des comptes au président. Le président peut éventuellement rendre des comptes à la firme Casino, mais sur une gestion globale et générale. Mais en ce qui concerne le domaine strictement technique, c'est-à-dire les renforts, des aspects techniques, des orientations sportives, le président est maître à bord. Et jusqu'à présent, jamais le Casino n'a critiqué qui que ce soit et quoi que ce soit.
La Saint-Étienne, c'est bien, ils réalisent pas, hein, c'est vrai. C'est eux qui ont pratiquement le plus de supporters en France. Ils font un chiffre d'affaires. La Saint-Étienne, il n'y a qu'un truc qui. C'est au niveau comptable. Parce qu'ici, il y a beaucoup d'argent. Et je veux dire quelque chose, nous, supporters, on voit pas tout. Hein. Moi, je vais pas citer des cas, mais. La Saint-Étienne, je veux dire quelque chose, c'est un des clubs qui a le plus d'argent en France. Hein.
Les supporters qu'il y a, c'est normal. Hein.
Ça, tu vois, on nous annonce qu'un comptable il détourne 500 millions, tu vois, comme ça.
Jean-Claude. Robert Arbin, il a une Audi 80. Elle est neuve.
Jean-Patrick, tu peux pas aller à la caisse avec Billard, là, il est en train de se débattre. Ouais. Parce qu'ils veulent nous filer 100 000 balles alors que la boîte. Va avec Billard, tu demandes où est la caisse, où est le. Parce que toi, tu vas l'épauler. Hein. Tu dis que je quitte pas le Parc des Princes, je couche là si j'ai pas les 240 000. Ça correspond à la feuille de recette, ils enlèvent 150 000.
L'humagnétique. Mais où est donc passé le ballon ? Ce soir, numéro 3, Foot Business. Arnaud Laporte, Christine Robert, Marc Corr.
Balle centrée, balle centrée. Changez.
quand on entend tous les nouveaux investisseurs du monde du football, on peut effectivement se demander, mais où est donc passé le ballon? Qui sont ces gens pour parler football à coups de milliards, de transferts ou d'images du produit? Une chose est sûre, la plupart d'entre eux n'aiment pas le football, ce qui leur permet d'ailleurs d'appliquer leur méthode sans scrupule, puisque peu leur importe l'état du football quand ils l'auront abandonné, pour aller vers d'autres vaches plus grasses. Heureusement, il y aura toujours des hommes pour vouer leur vie au foot. Il y aura toujours des hommes pour faire vivre des petits clubs, pour faire vibrer le moindre village, le moindre hameau. Des hommes qui assument des charges, des dettes, des humiliations, pour quelques instants de bonheur quand, le dimanche après-midi, leur équipe marque un but. Roger Latry, président de l'AS Saint-Martin-Boulogne.
Depuis 1949, je suis rentré au comité du club, comme secrétaire adjoint. Après, je suis devenu secrétaire du club. Et depuis 1956, je suis président du club Olympique Saint-Martin. Ça prend beaucoup de place dans ma vie, et en plus de ça, il faut que... J'ai madame qui est d'accord, hein. Parce que ça me demande beaucoup de temps pour le club. Tous les dimanches, on est pris la semaine. En moyenne, ça demande 3 heures de travail par jour pour s'occuper d'un club de cette importance. Ma femme m'aide. À chaque match au stade, c'est elle qui est la responsable de la buvette. Elle s'en sort pas bien, pas mal, quoi. Ma femme lave les maillots de l'équipe première. Et pour la récompense à la fin de l'année, pour une saison, c'est 200 francs pour une année. C'est vraiment dérisoire. Alors, c'est vraiment dérisoire, hein, laver les maillots toute l'année. Hein. 200 francs. Donc 200 francs, tout la responsable est chez nous.
Vous travaillez, vous ne faites pas que ça?
Oui, je travaille. Oui. Je travaille, j'étais artisan, vanier.
C'est un travail rémunéré quand même?
En club, non. Ça coûte plutôt de l'argent que ça rapporte.
Justement, comment vous arrivez à faire vivre votre club?
Nous avons une subvention de la ville, qui est vraiment dérisoire.
Combien?
40 000 francs. Et le budget de notre club dépasse les 100 000 francs. Nous sommes obligés de faire... des panneaux publicitaires, des tournois de cartes, un bal et un tournoi que nous faisons tous les ans.
Pour ramener de l'argent?
Pour ramener de l'argent au club, oui.
Et vous arrivez à vous en sortir comme ça?
Oui, difficilement. Cette année, nous avons été voir monsieur le maire pour avoir une subvention beaucoup plus forte, car pour l'année 87-88, nous avons eu un déficit de 10 000 francs. Et d'après les accords qu'on a eu avec M. le maire, il doit résorber ce déficit.
Est-ce qu'il y a beaucoup de supporters?
On fait une moyenne de 50 spectateurs au stade. Pour un club qui joue en promo sur honneur de la Ligue du Nord de football, nous sommes dans les 40 équipes les plus importantes de la Ligue du Nord.
Et vous avez une cinquantaine de spectateurs, pas plus?
Non. À part avec un derby, on a fait une moyenne de 100 spectateurs. Mais la moyenne, c'est 50 dans l'année.
Les joueurs de votre équipe sont des joueurs qui sont rémunérés?
Non, ils ont une prime de match qui s'élève à 100 francs. C'est vraiment dérisoire. 100 francs par match gagné.
Gagné? Quand ils perdent, ils n'ont rien
quand
du tout.
Quand ils perdent, ils n'ont rien du tout. On leur paie un sandwich en déplacement. Moi, il faut aimer le club pour continuer, car j'arrive à 58 ans, depuis plus de 32 ans, je suis à la tête d'un club, et cette année, je n'ai pas abandonné, car il nous manque beaucoup de moyens financiers pour faire vivre un club de 150 licenciés. J'ai repris pour une année, je crois qu'en fin de saison, je vais abandonner.
Il n'y aura plus de club à Saint-Martin-Boulogne?
Oui, récemment encore un club, à condition que quelqu'un veut reprendre la place, quoi.
Oui, je crois qu'une des raisons du succès de Bernard Tapie quand il est venu prendre la direction du club tient à son image.
Christian Bromberger.
L'image qui est bien synthétisée dans la devise qu'il a fait sienne et qui sont les trois R, le rêve, le risque, le rire, et qui se coule assez harmonieusement dans l'imaginaire collectif, à savoir ce goût pour la spectacularité, ce goût pour le fantasque, particulièrement prisé à Marseille et par les Marseillais. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que ce projet, qui au départ se coulait avec le style local, est un projet néanmoins de beaucoup plus grande envergure, puisqu'il s'agit désormais de penser le club à l'image un peu d'une entreprise, à la fois professionnelle, en inculquant et en faisant la promotion du culte de la performance à l'image des conditions économiques ambiantes. Le parallèle entre équipe de football et vie économique va très loin dans l'esprit et dans la pratique de Bernard Tapie ou de Jean-Luc Lagardère. Je crois qu'il faut le voir, y compris par les détails. Bernard Tapie a fait recruter quel joueur les premières années où il est arrivé? Giresse. C'est-à-dire un joueur, ou Domergue, c'est-à-dire des joueurs qui étaient contestés. Comme il a repris des entreprises qui étaient contestées, en péril, comme Vonder par exemple. Il y a donc une homologie qu'il établit entre la pratique et la compétition sportive et la pratique et la compétition économique, avec un but, avoué dans les deux cas, reprendre des équipes ou des joueurs contestés et les redresser, les relever vite.
Vous avez vu, vous avez parlé de Tapie. Après deux matchs de championnat, le président de l'OM a cru bon de remercier, c'est dit en jolis termes d'ailleurs, de remercier son entraîneur, c'est son droit, et de prendre entre autres comme prétexte que l'OM étant le troisième budget de France devrait être dans les trois premiers. Ce serait trop beau, ce serait trop beau. Je m'étonne d'ailleurs que d'autres sociétés beaucoup plus importantes que celles que M. Tapie dirige ou que M. Lagardère dirige ne soient pas intéressées au football de cette façon. C'est une vue vraiment étroite de ce qui se passe en sport, et il y a des fois on a peut-être que ce qu'on mérite.
René Voléry est chef du service des sports du Méridional.
L'arrivée de Tapie, c'est quoi l'arrivée de l'argent ici? Ça fait quoi?
Attention, il faut quand même pas. L'arrivée de Tapie n'est pas synonyme d'arrivée d'argent. Hein. Disons que c'est le business, l'arrivée du business, mais pas tellement l'arrivée de l'argent. Parce que quand même, l'Olympique de Marseille, du temps de Leclerc, du temps de Gallien, avec les caisses pleines, il n'y avait pas de souci d'argent. C'est quand on a commencé à faire des folies brésiliennes, que, pour le César et Gersino, que la situation financière s'est dégradée progressivement. Mais enfin, l'Olympique de Marseille, c'était un club, un des rares clubs qui pouvait boucler son budget par le seul secours de ses recettes. Ce qui n'est plus le cas maintenant, puisque actuellement, le budget de l'Olympique de Marseille doit être de 11 milliards d'anciens francs. Et les rentrées de recettes doivent compter pour 28 à 30% dans le budget général. Hein. Donc, Tapie a amené. Voilà. L'Olympique de Marseille était dans le tunnel pour diverses raisons, mauvaise gestion. Président qui se prenait pour l'empereur César, mais tout ça. Bref. Et l'arrivée de Tapie a permis à l'OM de sortir du tunnel, tout au moins la première année. La deuxième année, ça a été moins probant. Et maintenant, à mon avis, d'ailleurs c'est l'éditorial que je fais pour demain, 1988-89, c'est-à-dire la saison à venir, c'est la saison ou jamais, ou la saison de la dernière chance. Parce que malgré les deux années de gouvernement de Tapie, on n'a gagné ni un championnat, ni une coupe. C'est pour ça que il faut absolument que l'année qui vient, l'OM ou ait une coupe ou ait un championnat. Autrement, ça risquerait d'aller assez mal.
Alors, qu'est-ce qui se passerait ?
Le public marseillais, juste, j'en reviens au public marseillais, et je l'avais dit ça à Banida Hidalgo, n'est pas influencé ou influençable par l'aura de personnalité. C'est-à-dire, bon, Tapie, Hidalgo ont une certaine aura, d'accord, mais si ça va mal, il n'y a pas plus de Tapie que Hidalgo qui compteront. Hein. Ils seront capables de les jeter au vieux port, au figuré, heureusement, en même pays, comme l'ancien président. Si ça marche, pas de problème. Si ça ne marche pas, l'aura ne jouera pas.
Et vous pensez que c'est intelligent de faire partir 15 joueurs et d'en prendre 9 nouveaux ?
Est-ce que vous parlez pour cette intersaison ? Cette intersaison, c'était indispensable. C'était indispensable parce que dans les options qu'avait prises Tapie pour l'OM 87-88, il voulait des guerriers. Il voulait une équipe jouant sur un rythme à la Offenbach ou sur des accents wagnériens. Qu'est-ce qu'il a eu ? Il a eu des psychanalysés en permanence et des joueurs qui avaient des états d'âme et qui jouaient une musique de nuit en assassinant Mozart.
Jacques Pélissier.
Tapie, c'est sûrement l'avenir, alors que Voleri, c'est le passé. Alors je pense que la jeunesse préfère mieux quelqu'un d'avenir que quelqu'un du passé. Et pour l'OM, chaque fois on dit, on joue, c'est le match de la dernière chance, c'est le match. Je crois que le ballon, l'OM, tout le monde l'aime. Quoi qu'il se passe, l'OM marchera toujours. Si c'est avec Tapie président, tant mieux, parce que c'est la dynamique. Mais si c'est Tapie et plus, ben, il y aura un autre président. Et Marseille, ça ne peut pas ne pas marcher. C'est obligé.
Vous avez l'exemple d'Auxerre, qui est une équipe à petits moyens, qui se classe fort bien. Vous avez l'exemple de Montpellier, qui est une équipe à moyen, c'est le cas de dire, qui est européen. Et de notre côté, le problème financier dans le football n'existe pas d'aujourd'hui. Il existe du jour où on a instauré le contrat à temps. En ce sens que les joueurs prenaient de l'argent pour eux, ils ne revenaient rien au club, et cet argent sortait du circuit football. Là, c'est un danger, et ça s'est révélé être un danger. Mais maintenant, quand l'argent qui arrive reste dans le circuit football, ce n'est pas un danger, puisque vous avez Auxerre qui a un petit budget. Toutes les années, se procure une bouffée d'oxygène énorme en vendant Ferreri 1,5 milliard à Bordeaux, en vendant Cantona 2,1 milliards à l'OM. Et je parle à l'ancien franc. Hein.
Mais si on prend par exemple le Matra, visiblement, leur politique envers leurs joueurs et leur politique envers leurs supporters est d'essayer de les intégrer à la politique générale de la société Matra Communication.
Moi, je crois que, bon, ce sont des chevaliers d'industrie, mais je crois qu'ils se font beaucoup d'illusions. Je ne pense pas qu'un type qui va avoir joué le Matra Racing à Paris va forcément acheter un combiné Matra. Hein. Vous avez l'exemple de Sochaux. Moi, Sochaux chez Peugeot, c'est Peugeot, Sochaux. Et moi, je connaissais des joueurs, je ne vous les nommerai pas parce que je ne peux pas, et qui roulaient en BMW ou en Jetta. Hein. Ça, je les ai connus dans ma carrière. Pourtant, ils appartenaient à une équipe Peugeot. C'était Peugeot qui les payait, et jamais Peugeot n'a prétendu que le fait d'être supporter, joueur, dirigeant ou ce que vous voudrez de Sochaux était une obligation ou pouvait entraîner l'achat d'une voiture Peugeot. Alors je crois que je pense pas que ça a une influence. Et Tapie d'ailleurs en est parfaitement conscient. D'ailleurs.
Alain Ayot, ethnologue.
On sent bien qu'il y a une partie maintenant du club central des supporters qui tente d'adapter le fonctionnement même d'un club de supporters à l'expérience tapis, pour aller très vite. C'est-à-dire avec l'idée d'avoir un fonctionnement reposant sur le marketing, sur les grandes agences de publicité, sur les grandes agences de voyage, avec une dimension travaillant beaucoup sur la question de l'image, en essayant de faire naître une nouvelle race de supporters. Je suis pas convaincu d'ailleurs que ça marchera. Ceci étant dit, ce qui est intéressant de voir, c'est que cette compétition, elle est profondément liée finalement à l'évolution même du football. Quand on regarde le système aujourd'hui d'organisation même du football, qu'on se rend compte par exemple qu'à Marseille, il n'y a pas simplement des expériences nouvelles avec le panneau d'affichage avec les grands écrans, avec les spectacles d'après-match, avec le laser, avec les feux d'artifice, avec tout un environnement qui a été créé avec l'arrivée de Bernard Tapie. Mais il y a aussi une tendance à faire évoluer les structures même du club. Par exemple, Bernard Tapie avait tenté à plusieurs reprises d'obtenir l'autorisation de transformer l'association loi 1901, qui est le club de football, qui est l'Olympique de Marseille, en une société commerciale. Il a créé d'ailleurs parallèlement une société commerciale qui gère un certain nombre de choses pour le compte de l'association OM. Et ce qui est intéressant de noter à ce niveau-là, c'est que cette évolution du football rencontre un certain nombre de difficultés, parce que justement le club de football, même la structure loi 1901, c'est une structure qui au fond exprime très bien l'idée qu'un club de football, avant d'être le club d'un groupe industriel ou d'un homme, c'est d'abord le club d'une ville, et que ça fonctionne, et ça fonctionne très bien lorsque fonctionne les possibilités identificatoires, lorsqu'une ville ou un public peut s'identifier au club.
Stéphane Blanc qui a commis un coup franc là sur Laurent Fournier, qui se voit sanctionné par l'arbitre d'un premier carton jaune, donc carton jaune pour Stéphane Planck. Coup franc pour l'équipe stéphanoise, environ 45 mètres de la cage alsacienne. C'est l'international helvétique, le capitaine de cette équipe helvétique, Alain Gaillard, une des dernières recrues forésiennes là, qui va tirer ce coup franc. Gaillard pour la tête de Laurent Fournier, là-bas finalement ballon qui est récupéré par Thierry Gros, puis par Patrice Garand. Intervention de Léonard Specht, et tant bien que mal, la défense strasbourgeoise parvient à écarter le danger, pas pour longtemps, car c'est Gros là qui va menacer là-bas sur le côté gauche le Liégeon, mais Liégeon va obtenir la coupe.
J'aime le foot parce que... Is this for real? We're still testing.
No, it's for real.
It's for real, man. J'aime le foot parce que... Ça me passionne. Je mène une vie extrêmement... mouvementé, plein de voyages, et je trouve que de regarder un match pendant 90 minutes me préoccupe à 100%. C'est très très absorbant, et à cause de cela, pour moi en tout cas, ça me fait détendre, et parce que ça bouge vite. En tout cas en Angleterre, on a des très grandes foules toujours, et j'aime beaucoup l'atmosphère, et voilà.
Ian Maxwell est patron de l'agence centrale de presse et vice-président de Derby County Football Club.
Dans le cas de Oxford United, qui était alors dans la troisième division de la Ligue anglaise, c'était une équipe, à l'époque, qui était à quelques jours de faire un dépôt de bilan. Il se trouve que notre famille s'est installée à Oxford depuis maintenant 30 ans. Le club est à peine un kilomètre de chez nous. N'oubliez pas qu'à l'époque, c'était mon père qui avait pris cette décision. C'était vraiment un geste sportif, puisque à peu près 15 ans avant, ce n'était pas un club professionnel. Et c'était très triste de laisser terminer Oxford à l'époque. Donc, c'était un geste sportif. Et en plus de ça, on a eu un énorme succès avec ce club depuis, puisqu'elle est montée, le club est monté donc de troisième en deuxième, de deuxième en premier, et ensuite a gagné la coupe de la Ligue anglaise l'année d'après. Dans le cas de Derby, également un club avec beaucoup plus de tradition qu'Oxford, ancien champion d'Angleterre en 72 et en 75, en demi-finale du Coupe d'Europe également en 75 de mémoire, club avec énorme tradition, s'est trouvé relégué, enfin descendu de la deuxième division en troisième division au moment de son centenaire. Pas vraiment pour les mêmes raisons, dans la mesure où nous avons une société de notre groupe à Derby, que pour cette ville encore de laisser mourir un club avec une telle tradition qui est représentée pour la ville et donc pour nos ouvriers quelque chose de très très important, nous a paru à l'époque pas pensable. Et encore une fois, c'était pas nous qui avions fait le pas vers ce club, c'était le club qui avait le pas vers nous. Même histoire. Cette fois-ci, c'était moi qui étais le président. On a monté donc de troisième en deuxième, deuxième en première. Et on a connu encore un grand succès. Ce qui est important à savoir, c'est que Derby, qui n'était pas le cas d'Oxford, a beaucoup de chômage. Enfin, à l'époque, en 84, quand on l'avait repris, il y avait beaucoup de chômage. Et que à peu près 17% de la ville était chômeur. Et ce club donc représentait pour eux quelque chose de, pas simplement d'importance, mais c'était une vie. Et de pouvoir apporter notre soutien à cela nous a valu beaucoup en termes sociaux, mais vraiment c'était... I'm lost and I can't finish my sentence, but don't worry about it, you've got enough on that.
Le monde du capital, vous savez, dans la mesure où il peut trouver un profit, hein, il utilise tous les terrains. Bon, y compris, ils sont prêts à utiliser le sport.
C'est un jeu de mots ?
Non. Ils sont prêts à utiliser le sport.
On ne fait pas d'argent avec le foot en Angleterre. Je ne peux pas parler pour l'Italie, où on doit quand même faire beaucoup d'argent dessus, à ma connaissance. Le foot doit être considéré comme une affaire comme les autres. Le fait que c'est le football, c'est le produit. Et donc, il se trouve que votre produit est mis devant les spectateurs une fois par semaine. S'il aime le produit, ils reviennent. S'il n'aime pas, ils ne reviennent pas. On ne fait pas partie de l'armée de salut. Et donc, même en vous disant il y a quelques secondes qu'on ne fait pas beaucoup d'argent, voire même pas très peu d'argent, ou des pertes, avec des clubs de foot, les coûts doivent être maintenus à un niveau correct, on fait le maximum possible pour attirer les spectateurs, mais finalement, si les résultats sont mauvais, forcément vous avez moins de spectateurs, parce qu'ils ne veulent pas regarder un club qui est en train de dégringoler. Si c'est le cas, il faut que vous coupez les coûts partout. Et donc, une chose qui est claire, c'est que si on achète un joueur, un bien, hein, pour 70 000 livres, qui était, de mémoire, le coût de Aldridge, et on a une offre de 750 000 livres, et que le gars manifestement avait envie de partir, et c'était la fin de son contrat, qu'est-ce que vous ferez? Le foot, comme la vie, il y a des hauts et des bas. Soit vous êtes engagé dans le foot, ou vous ne l'êtes pas. Je ne dis pas qu'on est là pour l'éternité. On n'est pas le Père Noël. Après tout, si quelqu'un viendrait avec une offre pour le club dans sa totalité, je peux pas. C'est pas mon club, donc. Mais on ne vend pas un club comme ça parce qu'on descend de premier en deuxième. Ça me semble tout à fait enfantin comme idée. Et surtout, ça, c'est irresponsable. Le soir où il fallait gagner notre dernier, avant-dernier match pour monter en première division, il y avait quand même 28 000 personnes en place. Et le stade de Derby est très bien connu en Angleterre parce qu'elle est petite. Et les murs du stade sont très hauts. Le fait est donc que le son est contenu à l'intérieur du stade, comme c'est pas possible. Les joueurs des autres clubs n'aiment pas tellement venir chez nous parce que c'est très intimidant. La foule s'excite horriblement, enfin, d'une manière correcte quand même, mais le bruit est infernal. Et je me rappelle très bien, au dernier sifflet, il y avait des filles qui pleuraient, des vieillards qui étaient à genoux, des joueurs qui devenaient complètement fous. C'était vraiment quelque chose de très émouvant, simplement parce que c'était la renaissance de ce club. Et je crois que Rolls-Royce, je ne parle pas de Rolls, la voiture, mais des moteurs pour les avions, sachant que Rolls est le principal employeur à Derby, je crois que c'était le lendemain a fait un record pas possible de nombre d'engins construits pour cette journée.
Covin.
Naples, la ville la plus pauvre d'Europe, la misère, le chômage, tout ça, et puis arrive un type qui est payé et qui gagne plus que dans une journée que des types de canéons toute leur vie. Bon, c'est énorme, c'est tout ce qu'on veut, et en même temps, des économistes vous expliqueront que c'est pas plus bête que ça, parce que ça amène des devises qui permettront à Naples d'être moins pauvre, etc. Bon, ce qui est vrai et faux, bon, il y a une logique de la loufoquerie, quoi. Bon, c'est à la fois monstrueux et en même temps, ça appartient à une logique économique, des hauts salaires, des choses comme ça, dans lesquelles je ne comprends pas grand-chose. Mais c'est vrai que ça fait partie finalement du spectacle. Je crois que le football est arrivé à quelque chose hors norme. On ne peut plus en parler vraiment comme... Le salaire d'un joueur, bon, je parle d'une une étoile, n'a plus rien à voir, on peut plus comparer, quoi. Bon, y a des types qui sont des génies de la science, tout ce qu'on veut, et ils gagnent rien à côté de ces types qui savent manier un ballon, quoi. C'est tellement gros que ça devient, on se dit, oh, après tout, il doit y avoir des raisons, et puis bon, et puis ça passe comme ça, mais c'est vrai que c'est quand même, bon, il y a quelque chose de fondamentalement anormal, quoi. Voilà. Donc, moi, j'en suis persuadé, parce que c'est vrai que, bon, on a beau expliquer que les footballeurs, ils ont un temps de jeu très court, que c'est entre 18 et 25 ans, ou 27. Bon, d'accord, mais enfin, moi, entre 18 et 27, moi, j'ai pas gagné ça. Voilà, non, j'ai du mal à en parler, parce que je crois qu'un économiste pourrait expliquer ces phénomènes exceptionnels très, très facilement, mais c'est vrai qu'il reste, il reste en travers de la gorge de beaucoup de gens, et ça, je le comprends, quoi. C'est très, très étrange, le football, parce que moi, j'ai toujours été persuadé que c'était un jeu très individuel, en fait, que, bon, sans de grandes individualités, on ne faisait pas grand-chose. Et en même temps, parfois, il y a l'exception, il y a une petite équipe, là, ils sont tous nés dans le coin, et puis ça marche bien, et puis ils mettent la pâtée à des grandes équipes. Bon, donc, il n'y a pas de règles, mais c'est vrai que on a presque l'impression, déjà l'année dernière, je pense que ça va s'accélérer encore, qu'il va y avoir bientôt deux championnats, le championnat des pauvres et le championnat des riches, et qu'on va retrouver au fond un phénomène d'équipe sociale, comme en termes marxistes, comme il y a des classes sociales. Il y avait riches et pauvres, et là aussi, bon, au fond, le football, c'est une sorte d'image de la société, et là, on va retrouver, peut-être il y aura comment on appelle ça, l'IGF, l'impôt sur les grandes fortunes pour certains clubs et pas pour d'autres. Mais Et ça fait vraiment plaisir lorsqu'une petite équipe, parce qu'il y a les grandes et les petites, et c'est celles qui ont du fric, celles qui n'en ont pas, mais il arrive quand même que les petites battent les grandes, quoi. Alors là, il y a quand même un truc sympathique, mais il faut bien avouer que ça va être de plus en plus difficile et de plus en plus rare.
On peut imaginer ce qui se passe dans la tête d'un joueur qui est acheté par un grand club, non pas pour y jouer, mais pour rester sur le banc de touche, pour ne pas être pris par un autre club.
Oui, vous savez, ça s'est passé beaucoup. Les Américains faisaient ça et font encore beaucoup ça avec des livres, par exemple. Bon, moi, je ramène un peu le truc à moi, mais moi, j'ai eu un bouquin qui a été acheté il y a 12 ans et pour faire un film. Et ils ont jamais fait de film avec, mais ils ont eu peur que d'autres en fassent. Donc, on garde, on bloque. Et c'est vrai que les grandes compagnies américaines ont fait ça. Un joueur, je pense que ça peut être encore pire, parce que là, il faut quand même s'exprimer, et puis être payé des sommes astronomiques à rester sur la touche, bon, ça fait rêver peut-être des feignants, quoi, mais c'est quand même pas très drôle, surtout si on aime jouer, parce que je crois que ce qui caractérise un grand joueur, c'est qu'il doit aimer jouer. Si le football n'est plus un jeu, on se demande encore à ce moment-là ce que c'est. Ça, oui, je crois qu'il y a un côté assez criminel, quoi, assez criminel dans ce genre de... dans ce genre d'activité, parce que vraiment, pour pas que le matras et tel joueur le mettre, le garder, le payer, et puis pas le faire jouer en se disant, ben voilà, il est pas avec nous, mais il est pas en face, c'est quand même assez lamentable comme mentalité. Mais avec l'argent, avec tout ce qui se passe, c'est vrai qu'on arrive à des choses assez lamentables.
Je me rappelle le jour où on a annoncé la venue de Diego Maradona à Naples. Depuis des semaines, il y avait eu plusieurs fausses alertes, comme si les autorités attendaient, pour des raisons qui leur étaient propres, le moment le plus favorable pour dire « il vient ». Une nuit, vers 1h du matin, une rumeur a parcouru la ville. C'était enfin vrai. Et tout le monde s'est précipité sur le marchand de journaux qui reste ouvert toute la nuit pour acheter « il mattino ». Les banderoles avaient fait leur apparition. Les embouteillages bloquaient tout le centre-ville. Si quelqu'un avait prétendu qu'un ancêtre de Maradona avait posé la première pierre de la ville, on l'aurait cru.
Claudette Beaugrand.
Depuis tout jeune, de toute façon, il joue au foot à Amiens. Il a quitté il y a 2 ans. Il a été repéré, il a gagné d'abord à Amiens, étant tout jeune, les concours du jeune footballeur, cadet de Picardie, équipe de France junior. Après, bon, bah, il a joué en deuxième division à Amiens. Et alors, c'est là qu'il a été sollicité par Sochaux, Nice. Enfin, à l'époque, il avait 16 ans. On a même été invité à Sochaux. Il a été faire un stage. On a même signé un contrat de non-sollicitation. Bon, puis, il a préféré rester à Amiens.
Pourquoi ?
Pourquoi ? Ça, c'est délicat, hein. Partir, c'est pas évident non plus, hein. Partir de chez soi, je sais pas, on peut pas dire ce qui s'est passé à ce moment-là, mais comme une mère, hein, on poussait pas, mais on poussait pas, mais enfin, on le retenait pas. Bon, ben lui, il a préféré rester à Amiens.
Et les recruteurs, quand ils contactent comme ça des jeunes joueurs, comment ça se passe? Ils sont assistants?
Oh, assez, oui. Oui, 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 lui, le téléphone, ça marche. Hein. Oui, il a été sollicité, hein, ça. Sochaux, ben, eux, ils nous proposaient un logement, moi et son père, et puis lui, bien sûr. Ils nous proposaient un logement, du travail aux usines Peugeot. C'était un choix à faire, hein. On partait avec lui à ce moment-là. Hein. Bon, ben, c'était tout quitté aussi, la famille, tout. Pour lui, ils étaient prêts à tout. Hein. Oh oui, Sochaux, ça a été difficile à les convaincre. Hein. C'est vrai. Hein. On a visité les chambres, forcément, c'était là tout seul, près du stade. Il faut vraiment... aimer. Enfin, il aimait, c'est pas le football, mais se retrouver tout seul, c'est pas, on peut pas dire ce qui s'est passé à ce moment-là, mais il a choisi autre chose. Bon, bah, rester à Amiens, bien sûr. Amiens, bon, bah, il a joué en deuxième division. Bon, bah, après le club, ça a été la troisième division, et puis bon, bah, il a quitté. Il est parti à la campagne. Alors, il est entraîneur d'un petit club à Rumigny. Bon, bah, après, il y a eu le mariage. Hein. Et puis, bon, bah, maintenant, il a acheté une maison à la campagne. Et puis, c'est tout. Son frère est président de ce petit club-là. Lui, il est entraîneur-joueur. Bon, bah, ça se passe en famille.
Il continue,
bah oui. Ah oh oui, il aime ça, pour aimer ça, il aime ça. Hein. Il entraîne les jeunes, il est pratiquement sur le terrain de foot tous les jours. Hein. Ah oui.
Vous êtes une fan de football aussi?
Ah oui, oh bah nous, forcément. Hein. Avec deux enfants qui jouent au foot, ça, le foot, c'est notre passion. Hein. Ah oui, tous les dimanches, je crois qu'un match, on ne l'a jamais raté. Hein. Depuis le temps qu'il est jeune, hein, c'est vrai. Hein. On l'a toujours suivi partout. Hein. C'est peut-être ce qu'a fait qu'il aimait ça aussi. Hein. On s'occupait bien de lui, ses affaires et tout. Hein.
Est-ce que Lionel ne regrette pas et est-ce que vous ne regrettez pas de ne pas l'avoir laissé partir à Sochaux?
Bah, nous, regretter peut-être un peu. Parce qu'il méritait quand même mieux qu'il joue en ce moment. Il mériterait mieux hein, parce qu'il joue encore bien. Hein. Vous voyez, c'est un gaucher, il était bien appris. Hein. Enfin, lui regretter, je pense pas. Maintenant, non, je crois pas. Il regrette pas, non. Non.
Thank you. Cela s'est passé dans l'île Alexandra, l'une des dernières terres avant les icebergs de l'océan glacial arctique. On trouve au nord la terre François-Joseph et puis il n'y a plus rien. Que les brumes et le froid. Dire que ce document représente le dernier but qui fut marqué au cours du dernier match serait excessif. Il a existé par la suite quelques équipes nomades qui ont tenté de survivre en proposant des rencontres clandestines. Certaines eurent lieu à Sakhalin, entre autres, dans les déserts montagneux de Roubalpak et dans les prisons désaffectées d'Hyderabad. Mais ce match, qui opposait l'Angleterre au Bénin, fut le dernier à être encore diffusé par quelques réseaux. L'enregistrement que je possède comporte une bande sonore finlandaise. Il est difficile d'avoir des précisions en ce qui concerne la température. On peut penser qu'étant donné la région et la saison, tout s'est déroulé à moins 40 degrés centigrades environ. L'idée venait d'un sponsor en vêtements thermiques qui utilisait la rencontre pour lancer son produit. Il lui fallait prouver que, grâce aux matériaux spéciaux avec lesquels étaient faits les équipements des joueurs, il pouvait tenir le coup, même aux températures les plus basses et sous les rafales de blizzard les plus intenses. Il faut se rappeler qu'à cette époque, les matchs se déroulaient en 9 temps de 10 minutes, de façon que le jeu ne soit pas interrompu par la projection de spots publicitaires durant les temps d'arrêt. En fait, ce jour-là, les joueurs purent tenir une vingtaine de minutes, grâce non pas à l'efficacité de leur équipement, mais à l'inoculation de substances chimiques activant les défenses thermiques contre les attaques extérieures. Ces substances cessèrent trop rapidement de faire leur effet et le résultat ne se fit pas attendre. Les gestes des joueurs se ralentirent et les douleurs pulmonaires se mirent à apparaître. Les footballeurs béninois furent les premiers atteints. Il fut calculé que la différence de température entre le terrain de l'île Alexandra et leur lieu d'origine était de plus de 80 degrés centigrades. Mais bizarrement, ce fut le centre-avant anglais James Morland qui succomba le premier. Le cliché qui le montre marquant de la tête l'unique but de la rencontre est exceptionnel sur un point. Au moment où il a été pris, Morland est déjà cliniquement mort. L'autopsie pratiquée le démontra. Les tissus brûlés, les neurones et l'ensemble du système rachidien, fragilisé par le froid extrême, ne supportèrent pas le choc contre la balle durcie par le gel intense. Les vertèbres claquèrent comme du verre. Morland fut la première victime. 7 minutes plus tard, l'arrière latéral béninois mourut à son tour. Le dernier match ne dura en fait que 22 minutes. La maison de vêtements thermiques qu'il avait sponsorisée fit faillite, tandis que 3 nouveaux joueurs durent être lasérisés et subir une rééducation du système respiratoire. Ainsi s'acheva la belle histoire d'un sport par une meurtrière et lamentable prestation. Comme la mémoire isole une image du flux constant de la vie, James Morland m'apparaît figé dans sa trajectoire, à la fois par la mort et par le souvenir. On dit qu'il ne reste plus rien dans l'île Alexandra, que la glace et le vide. James Morland, texte de Patrick Covin, extrait de Hors-jeu, livre-album illustré par Enki Bilal, paru aux éditions Autrement.
Nuit magnétique. Mais où est donc passé le ballon ? Foot Business.
Avec Jean-Louis Piette, Frédéric Gallamet,
Jean-Paul Oudot, Georges Marché,
Yann Maxwell,
Bernard Puyer,
Roger Latry, Christian Bromberger,
René Voléry, Jacques Pellissier,
Alain Haillot,
Patrick Covin, Claudette Beaugrand.
Avec des musiques de
The Cure, Flying Lizards, Dead Can Dance, Bauhaus, Tuxedo Moon, Gang of Four.
Texte lu par André Dussolier. Claire Levasseur, Simone Ronger, Michel Toutain, Marie-Françoise Simon, Hervé Levaux, Marc Gore, Christine Robert, Arnaud Laporte.
C'était « Mais où est donc passé le ballon ?» Foot Business, troisième partie. Un numéro des Nuits Magnétiques d'Arnaud Laporte et Marc Gore, diffusé pour la première fois le 8 septembre 1988, avec Jean-Paul Oudot, Jean-Louis Piette, Alain Ayot, Pascal Bromberger, Frédéric Galamet, Yann Maxwell, René Voléry, Jacques Pellissier, Georges Marché, Patrick Covin et Bernard Puyer. Réécoute et téléchargement sur le site de France Culture à la page des Nuits et sur l'application Radio France.